Dans un monde où la sécurité internationale est constamment remise en question, le désarmement nucléaire, les bombes atomiques peuvent émerger comme des enjeux cruciaux. Le désarmement nucléaire, qui vise à réduire et éliminer les arsenaux nucléaires, est une priorité pour de nombreux pays, y compris ceux de l'Union européenne. De fait, les bombes atomiques, symboles de destruction massive, restent une menace tangible, tant qu'elles existent, influençant aussi directement les politiques de défense et de sécurité. Alors, pour qu'elles ne restent que menaces, et dans un contexte d'hyperprolifération des armes nucléaires, on s'appuie encore et toujours sur la dissuasion nucléaire, sur cette doctrine du non-emploi, sachant que l'utilisation des armes nucléaires nous amènerait à l'apocalypse. Donc, comment allons-nous essayer de croiser ces thèmes? C'est toute la question avec nos intervenants que nous avons interviewés en amont, mais surtout en présence en plateau de notre invité principal, qui est Jean-Marie Collin, directeur d'ICAN, la branche française de la campagne internationale pour l'abolition des armes nucléaires. Bonjour Daniel Ulas, vous allez nous présenter notre invité?
Je pense qu'il va se présenter tout seul. Donc Jean-Marie Collin est directeur de ICAN France, qui, comme tu l'as souligné, fait partie du réseau international qui a eu le prix Nobel de la paix en 2017. Donc Jean-Marie, vous allez peut-être nous expliquer d'abord brièvement l'origine un peu de ICAN, de cette campagne qui a débouché sur le TIAN, le traité d'interdiction des armes nucléaires, et puis votre passage récemment au siège des Nations Unies.
Oui, mais écoutez, merci beaucoup. Bonsoir, merci pour cette invitation. Alors ICAN est né en 2007, donc ICAN, ça veut dire la campagne internationale pour abolir les armes nucléaires, est né en 2007 dans l'objectif d'interpeller les États et de se recentrer sur une question qui est les conséquences humanitaires des armes nucléaires. C'est-à-dire que jusqu'à présent, les campagnes internationales qui s'étaient mises en place et celles qui existent en parallèle de ICAN, il y en a d'autres mises en place par des ONG, ont toujours travaillé principalement sur la question où on essayait de relever la question de challenger la dissuasion nucléaire, de parler sur les questions du désarmement, c'est-à-dire de diminuer les armes nucléaires, mais n'avait jamais posé, interpellé l'opinion publique internationale, interpellé les États sur un fait qui a pour but de remettre en cause véritablement les armes nucléaires, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe en cas d'utilisation d'armes nucléaires, en cas d'emploi volontaire ou d'emploi involontaire, par accident par exemple. Et donc c'est comme ça que la campagne est véritablement née en 2007. Aujourd'hui, c'est un peu plus de 110 organisations à travers le monde, dans 700 organisations à travers le monde dans 110 États. En France, il y a une cinquantaine d'organisations qui sont membres donc, de la campagne ICAN France que j'ai la chance de diriger et dont le siège est à Lyon. Et parmi les organisations membres, on peut compter Utopia, par exemple, le Mouvement pour une alternative non violente, l'Observatoire des armements, parmi les grandes organisations, et la Ligue des droits de l'homme, bien évidemment. Et ensemble, à travers cette campagne, en France, on travaille pour à la fois changer véritablement les consciences vis-à-vis des armes nucléaires, expliquer la dangerosité de ces systèmes d'armes, puisqu'il faut bien entendre que jusqu'à présent, les armes nucléaires ont toujours été vues à travers la communication des gouvernements comme quelque chose d'extrêmement positif. On parle toujours de protection, mais on n'explique jamais la réalité des conséquences, la réalité, encore une fois, d'emploi. Et le fait de disposer des armes nucléaires induit aussi d'être finalement un État ciblé par des autres puissances nucléaires comme la Russie ou la Chine. Et donc, au fur et à mesure de ces travaux, depuis 2007, des travaux qui ont été menés avec des États et avec notamment le Comité international de la Croix-Rouge, le CICR, c'est ensemble qu'on est arrivé à aller aux Nations Unies pour poser une question simple et savoir si les États voulaient interdire les armes nucléaires par le biais d'un instrument juridique contraignant. Il faut bien comprendre que jusqu'en 2017, il n'existe pas de traité international qui vienne interdire les armes nucléaires. On a des traités internationaux qui interdisent, par exemple, les mines antipersonnelles, qui interdisent les armes chimiques ou encore les armes biologiques, mais nous n'avions pas un instrument global interdisant les armes nucléaires. Donc cette question a été posée, cette question a engendré plusieurs semaines de négociations à laquelle j'ai eu la chance de participer. Et donc, le 7 juillet 2017, de manière écrasante, 122 États ont voté en faveur de cette interdiction, c'est-à-dire ont officiellement créé un traité pour interdire les armes nucléaires. Et ce traité est entré en vigueur depuis 2021 maintenant. Et donc, légalement parlant, les armes nucléaires sont bien interdites, et ce, même si des États, que ce soit la France, la Corée du Nord ou la Russie, ne les reconnaissent pas, ne reconnaissent pas ce traité. Et le fait qu'il y ait ce traité a créé une pression internationale, a stigmatisé et commence à stigmatiser de plus en plus les États qui possèdent ces arsenaux nucléaires ou qui participent à une politique de dissuasion nucléaire. Et d'une manière générale, on peut le remarquer dans à peu près tous les domaines, lorsqu'on veut éliminer quelque chose, on crée en premier la norme d'interdiction et on va arriver petit à petit à son élimination. Si on prend le parallèle sur les cigarettes, on crée des normes et des contraintes importantes pour faire en sorte que les gens arrêtent de fumer. Et petit à petit, on tend vers l'élimination ou l'arrêt des personnes qui fument, puisqu'aujourd'hui, on a bien moins de personnes membres qui fument que 50 ans en arrière où il n'y avait aucune norme. Donc l'objectif, c'est vraiment ça, créer une pression auprès des États. On a un peu plus d'une centaine d'États qui ont signé et ou ratifié ce traité sur l'interdiction des armes nucléaires. Donc la pression est bien réelle, elle est bien présente. Et donc, il y a en ce mois de mars 2025, ce traité a eu sa troisième réunion. Donc, c'est une réunion, ça veut dire que c'est l'ensemble des États signataires et des États qui décident d'observer, c'est-à-dire qui ne sont pas encore signataires ou qui ne sont pas encore membres, qui viennent, qui participent à cette réunion, qui écoutent les États qui sont en faveur de ce traité. Et cette troisième réunion s'est déroulée au siège des Nations Unies, où ACAN France avait emmené une délégation d'une dizaine de personnes, de différentes organisations, le Mouvement de la Paix, par exemple, Pugwash France, et puis Initiative pour le désarmement nucléaire, où on a à la fois réalisé des événements parallèles, notamment sur la question des essais nucléaires en Algérie, et en même temps participer à cette action, à différents processus sur ce traité pour faire en sorte que celui-ci engage de plus en plus d'États. Et ce qu'on s'est aperçu au bout d'une semaine, donc les États présents ont fait différentes déclarations, mais il y a eu une grosse déclaration politique en fin de semaine qui a été réalisée pour à la fois, dans un contexte quand même qui est hyper trouble et qui est très insécuritaire, où effectivement on a beaucoup de personnes politiques françaises ou internationales, notamment européennes, et comme des chercheurs qui ne cessent de revendiquer l'importance des armes nucléaires, voire même qui disent qu'il faudrait avoir des arsenaux nucléaires. Le Premier ministre belge, il y a une dizaine de jours, a dit qu'il faudrait que la Belgique ait plus d'armes nucléaires ou que l'Union européenne se dote elle-même d'un arsenal nucléaire. Eh bien, dans ce cadre-là, ces États ont fait une déclaration politique forte qui les engage à agir encore plus sur le désarmement nucléaire, mais surtout qui a pour objectif de challenger la dissuasion nucléaire. La dissuasion nucléaire, c'est vraiment le concept qui a été expliqué depuis une cinquantaine d'années, dans le sens où celui-ci a été communiqué que cette dissuasion protégeait, cette dissuasion assurait la sécurité, grâce finalement à des arsenaux nucléaires, des armes de destruction massive. Eh bien, on effraierait potentiellement tout État qui souhaiterait venir intervenir. Si on prend une image parallèle, c'est vous avez des gros muscles, et donc vos gros muscles vont impressionner potentiellement un adversaire, et celui-ci devrait reculer de peur d'avoir un certain nombre de représailles qui seraient extrêmement défavorables. Bref, le jeu de faire réaliser un acte de guerre n'en vaudrait pas la chandelle. Mais la dissuasion nucléaire, si c'est effectivement avoir des armes nucléaires, ça signifie surtout menacer en permanence des États, et notamment leur population civile, avec des armes de destruction massive. Et dans cette menace d'emploi permanente, c'est ce qui fait la crédibilité, c'est ce qui crée bien cette menace permanente, ça signifie bien que les chefs d'État qui disposent de ces arsenaux nucléaires, donc le président Macron en France, son État-major accepte d'ores et déjà de rayer de la carte des villes entières, ou en tout cas d'affecter massivement les populations qui souffriraient de l'explosion de ces différentes armes nucléaires. Donc il y a d'ores et déjà un renoncement à l'application du droit international humanitaire et de ses principaux principes, que ce soit notamment la distinction entre les populations civiles et combattantes, par exemple. Donc le fait que ces États, lors de cette troisième réunion du TIAN, aient décidé d'affirmer ce principe-là, de challenger la dissuasion nucléaire, d'apporter des éléments de preuve dans les prochains lors de la prochaine conférence à nouveau, de faire en sorte de débattre de ce sujet-là à l'ONU est véritablement quelque chose d'important et de positif, puisque c'est la base véritablement de la politique et de la mise en œuvre de ce système d'armes. Donc ça, c'est un point très positif. Autre conclusion importante, un fonds international va être créé pour aider les populations qui ont été victimes des armes nucléaires et pour permettre aussi la réhabilitation des anciens sites d'essais nucléaires à travers la planète. Les essais nucléaires, on va parler d'explosion nucléaire. Il y en a eu un petit peu plus de 2000 depuis 1945, ont affecté massivement certaines zones à travers la planète. Et on a donc des États qui participent à ce traité, comme le Kazakhstan ou les Fidji ou les Kiribati, qui ont été victimes massivement d'explosions d'armes nucléaires. Et donc ce fonds va avoir pour objectif d'aider les populations, d'aider les zones qui ont subi ces différentes destructions. On espère dans l'année, voire l'année prochaine, une ratification de la part de l'Algérie. L'Algérie pourra aussi participer, ou en tout cas obtenir des aides pour aider sa population ou réhabiliter l'environnement, hein, puisque l'Algérie a notamment été victime de 17 explosions nucléaires françaises entre 1960 et 1966. Donc voilà, ça a été une réunion extrêmement intense qui permet de montrer qu'une large partie du monde, pratiquement la moitié, hein, c'est la moitié des États membres de l'ONU qui sont en faveur de cette interdiction des armes nucléaires, qui exercent cette pression sur le traité sur l'interdiction des armes nucléaires et qui tentent, voilà, à travers cette action, à travers leurs débats, à travers la pression politique, diplomatique qu'ils exercent et à travers la pression que notre campagne exerce, de rallier les États qui, type l'Allemagne, type l'Espagne, par exemple, qui soutiennent pour le moment cette politique de dissuasion nucléaire. Donc on est dans un processus qui est évidemment à long terme. La question, c'est pendant combien de temps, en fait, on a de la chance sans qu'il n'y ait jamais d'utilisation d'armes nucléaires.
Oksana Mitrofanova, merci de répondre à nos questions dans le cadre de cette émission qui porte sur le désarmement nucléaire, les armes atomiques. Alors, vaste programme, vous allez me dire. Alors, vous, Oksana, en tant que chercheuse en sciences politiques ukrainienne et spécialiste des questions de diplomatie, de défense et des questions militaires, notamment entre la France et l'Ukraine, quelle expérience avez-vous, qu'est-ce que vous ressentez à l'idée du désarmement nucléaire total des nations? Vous en avez une expérience plutôt négative, me semble-t-il.
Bonjour. Tout d'abord, il faut rappeler que l'Ukraine a abandonné ses armes atomiques contre la garantie de sécurité, ou plutôt les assurances de sécurité qui étaient données dans le mémorandum de Budapest 1994. Ensuite, l'Ukraine a signé l'adhésion dans le traité de non-prolifération. Donc voilà ce qu'on voit. L'Ukraine a donné l'arme nucléaire qui était héritée de l'Union soviétique. C'est vrai que c'était l'héritage. Et a reçu les garanties ou les assurances qui ne fonctionnent pas du tout. Parce que dans ce mémorandum, c'était écrit qu'on respecte l'intégrité territoriale de l'Ukraine et on respecte sa souveraineté. Maintenant, la guerre d'haute intensité en Europe se passe exactement en Ukraine. Donc, on peut poser, bien sûr, la question strictement théorique, est-ce que l'Ukraine devra respecter ce traité de non-prolifération, en sachant qu'on n'a pas respecté son intégrité territoriale. Donc, du coup, peut-être dans l'autre monde qui n'existe pas sur cette terre, c'est bien l'idée de dénucléarisation. Mais malheureusement, il faut quand même constater la réalité que l'Ukraine, c'est le premier pays au monde qui a refusé volontairement ses armes nucléaires et qui a reçu la guerre d'haute intensité. Ensuite, un détail strictement technique, l'Ukraine a donné aussi, par exemple, ses avions, c'est-à-dire les bombardiers stratégiques, à la Russie à la fin du XXe siècle. Et maintenant, on constate que ces bombardiers stratégiques sont utilisés pour bombarder l'Ukraine bien sûr pas par l'arme nucléaire, mais par les missiles, on peut dire, habituels.
Conventionnels.
Voilà, conventionnel, ce qui ne console pas quand même, c'est l'ironie voilà, du destin. Mm. Donc, je pense que les Ukrainiens sont bien marqués par ce processus qui est strictement négatif pour l'Ukraine. Et c'est très difficile pour nous à croire à l'étape actuelle qu'une déclaration, c'est quelque chose de positif pour le pays. C'est quelque chose comme... L'abandon de, on peut dire, de la protection ou de la force des usages. Parce que, imaginons, si l'Ukraine garde l'arme nucléaire au moins tactique, on pense que l'Ukraine n'a pas, dans ce cas-là, la guerre d'autres intensités sur son territoire.
Elle aurait conservé une force dissuasive.
Tout à fait, parce qu'il y a bien sûr les types d'armes différentes, il y a, c'est-à-dire l'arme stratégique, l'arme tactique, mais à l'époque, c'est-à-dire à l'époque du début de l'indépendance ukrainienne, l'Ukraine a subi la pression des pays nucléaires, voilà, donc on l'a poussé vers ce processus de dénucléarisation, donc c'est un peu difficile peut-être affirmer que c'était strictement volontaire, non, c'était les conditions qui ont poussé vers cette dénucléarisation, mais néanmoins, ça ne change pas le fait que le résultat est strictement négatif, au moins pour l'Ukraine.
Est-ce que les Ukrainiens sont déçus de ce revirement total de l'administration Trump et du fait de ne plus compter l'OTAN parmi les alliés, voire la garantie suprême d'une possible fin de la guerre, mais de manière juste pour les Ukrainiens?
Bien sûr, tout d'abord, c'est les États-Unis, c'est eux qui ont signé le mémorandum de Budapest, ensemble, par exemple, avec la Grande-Bretagne et la Russie. Après, la France s'est réunie à ces pays. Donc, du coup, quand le signataire du mémorandum de Budapest ne veut plus garantir l'intégrité et la souveraineté territoriale de l'Ukraine, c'est inquiétant. D'autre côté, au point de vue strictement d'aide militaire, l'Ukraine est très dépendante de l'aide militaire. Et si on imagine l'hypothèse strictement négative pour les Ukrainiens que les États-Unis arrêtent, par exemple, arrêtent toute l'aide militaire, il s'agit de renseignement, d'équipement militaire ou les missiles pour défense antiaérienne. C'est catastrophique pour l'Ukraine. Et aussi, bien sûr, on comprend très bien que l'Europe souhaite beaucoup aider l'Ukraine, mais est-ce qu'il y a des capacités nécessaires, des capacités de l'Europe dans le domaine de renseignement, des capacités militaires de remplacer tout de suite les États-Unis? Donc, c'est peu probable. C'est peu probable. On peut dire, si on analyse le terme court, quand il s'agit de moyens de terme, ce n'est pas exclu, mais l'Europe, l'Union européenne, a besoin de temps pour intensifier, on peut dire, son industrie militaire. Donc maintenant, on ne peut pas vraiment prévoir l'issue de ces négociations aussi, mais si l'Ukraine est exclue, admettons si elle est exclue de ces négociations, si l'Europe est exclue, est-ce que cela donnera la paix durable? Parce que quand même, il s'agit de la situation quand même en Europe, l'Ukraine se trouve en Europe.
Alors, qu'est-ce que ça vous inspire, ce qu'a dit Oksana?
Peut-être l'interpellation sur le mémorandum de Budapest. Est-ce qu'il a privé l'Ukraine de sa souveraineté?
Bon, il faut bien comprendre que, avec la deuxième invasion de l'Ukraine, 2022, la première étant en 2014, il y a ce mythe qui ressort à chaque fois de manière vraiment fréquente, c'est-à-dire si l'Ukraine avait gardé son arsenal nucléaire, elle n'aurait pas été envahie. Il faut bien comprendre que l'Ukraine avait une volonté dans les années 90, l'indépendance. Et cette indépendance, elle était liée à une chose principalement, qui était obligée par les États-Unis, la Grande-Bretagne, la Russie et par la communauté internationale. En réalité, c'était le fait que l'Ukraine rende l'arsenal nucléaire soviétique à la Russie. Et l'Ukraine a accepté ça, non pas de mauvais cœur, mais au contraire, de bon cœur, puisque pour elle, ce qui importait absolument, c'était d'obtenir son indépendance. Et son indépendance n'a pas été privée par cette sécurité. Son indépendance était le prix de cette sécurité, de pouvoir faire le choix de son destin et de sa vie. Et ces armes nucléaires n'étaient là que pour finalement créer une insécurité. D'ailleurs, on a un autre État, hein, contrairement à ce que dit l'intervenante, on a bien le Kazakhstan aussi qui avait des arsenaux nucléaires sur son territoire et qui ont décidé aussi de les rendre à l'Union soviétique, enfin à la Russie plutôt, pour retrouver pleinement une indépendance et une pleine sécurité, comprenant bien que les armes nucléaires ne sont pas une solution à la sécurité, mais au contraire, viennent créer une insécurité. Et puis, dans cette vision du « ah, si on avait gardé des armes nucléaires », il y a cette croyance qu'en fait, on passe du milieu des années 90 à 2014, comme si rien ne se passe pendant près d'une trentaine, d'une vingtaine d'années, comme si, puisque nous sommes dans les si, il n'y aurait pas un accident nucléaire militaire, comme si on n'aurait pas eu un acteur dictateur beaucoup plus important en Ukraine et qui aurait potentiellement pu utiliser aussi des arsenaux nucléaires, comme si les États-Unis ou la Russie auraient accepté que l'Ukraine conserve ses arsenaux nucléaires. Donc, avec les si, on refait véritablement l'histoire, mais une nouvelle fois, la certitude, c'était vraiment la recherche et la volonté d'être indépendant. Il faut bien entendre et comprendre également que l'Ukraine, même avec des arsenaux sur son territoire, ne disposait pas des moyens d'emploi de ces différents arsenaux, puisque tous les codes et toutes les procédures étaient pleinement soviétiques et dans la main de feu l'Union soviétique, donc dans la Russie, qui avait une impossibilité. Donc au contraire, ça crée un vrai danger, des risques de prolifération, voire potentiellement aussi des risques de terrorisme nucléaire. Donc l'Ukraine, en renonçant à son arsenal nucléaire pour accéder à une sécurité, pour accéder à son indépendance, a véritablement fait le bon choix. Et on peut voir aussi, par ailleurs, que d'autres États à travers le monde ont fait ce choix-là. Alors, dans les années 70 ou 80, nous avons eu, par exemple, l'Argentine et le Brésil qui ont décidé de renoncer à leur programme nucléaire militaire pour obtenir aussi une plus grande aura internationale et pour rejoindre véritablement les nations à ce niveau-là. L'Afrique du Sud a abandonné son arsenal nucléaire. C'est le seul État au monde qui a eu un arsenal nucléaire et qui a décidé de l'abandonner volontairement, unilatéralement et sans aucune pression à la fin des années 80. Donc on voit bien qu'il y a de nombreux États qui ont décidé de renoncer à leurs arsenaux nucléaires. Et ce choix ukrainien était vraiment celui qui était nécessaire pour créer cette destinée. Après, malheureusement, il s'avère que autant la Russie, bien évidemment, puisque c'est quand même elle qui est la principale coupable, hein, puisque par deux fois elle a mené des actions militaires à l'encontre de l'Ukraine dès 2014 et puis à partir de 2022, donc n'a pas respecté ses obligations qu'elle s'était créée à travers le mémorandum de Budapest. Et malheureusement, tant la Grande-Bretagne que les États-Unis n'ont rien dit ou pas dit grand-chose lorsque les premiers événements de 2014 se sont réalisés. Et c'est là-dessus où, en fait, ces deux États-là, plus la communauté internationale et l'Union européenne, est véritablement coupable de ne pas avoir agi avec force sur ces différentes actions, de n'avoir donné que quelques sanctions. Hein, vous entendez encore assez fréquemment un nouveau train de sanctions est mis en place. On peut s'étonner, après pratiquement 11 ans de guerre, ou en tout cas d'invasion qui a débuté sur la Crimée dès 2014, qu'on puisse encore créer de nouvelles sanctions, comme si on n'aurait pas dû les mettre en place beaucoup plus rapidement et beaucoup plus fortement pour qu'elles soient effectives et pour qu'elles marchent. Donc on a l'Europe, les dirigeants européens, les dirigeants des États-Unis de l'époque et encore plus actuels, et du Royaume-Uni, ont une responsabilité malheureusement dans le fait qu'une population ukrainienne souffre énormément.
Et aussi, Vladimir Poutine ne cesse de proférer des menaces nucléaires. Dès que les choses ne se passent pas très bien sur le terrain, ou dès qu'il sent que voilà, y a des choses qui ne lui plaisent pas, il profère ces menaces nucléaires. Et ces menaces nucléaires, on dit qu'elles ont été prises au sérieux sous l'administration Biden, et que c'est en partie pour cela que les Américains ont plus ou moins calibré leur aide militaire à l'Ukraine, parce que il y avait quand même cette crainte d'un emploi possible de l'arme nucléaire, parce que on avait basculé dans ce qui nous apparaissait à nous une stratégie irrationnelle de la part de Poutine.
Alors, ce qui est certain, c'est que c'est l'un des premiers conflits, même si en Inde et au Pakistan, d'une certaine manière, il y avait déjà des actions dans ce sens-là. Mais c'est vraiment le premier conflit où, massivement, un État qui possède des armes nucléaires, la Russie, emploie en tout cas la dissuasion, non pas dans le sens son arsenal nucléaire, non pas sur le terrain, mais dans les mots, dans les discours, dans la pression internationale pour faire peur, pour impressionner, pour empêcher les différents gouvernements potentiellement d'apporter une aide et un soutien militaire. Donc c'est vraiment un conflit qui est sous l'ombre des armes nucléaires, hein, sous la menace d'employer des armes nucléaires. Lorsqu'en février 2022, Poutine engage le conflit contre l'Ukraine, immédiatement, il indique bien aussi que l'ensemble de son personnel stratégique des armes nucléaires sont mis en état d'alerte maximum. Donc ça indique bien qu'il y a derrière ce conflit la menace d'emploi d'armes nucléaires pour impressionner et pour faire peur. Bon, c'est aussi la base de la dissuasion, hein, impressionner et faire peur. Il est vrai qu'aujourd'hui, on a énormément de sources de renseignements qui indiquent que sur les premiers mois, et on peut dire quasiment les 9 premiers mois du conflit, l'ensemble des menaces du président Poutine ont vraiment été prises au sérieux par les différentes puissances nucléaires. La France ayant, par exemple, mis à l'eau ses 3 sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. Hein, donc normalement, il n'y en a qu'un seul qui est en permanence à l'eau. Là, elle a mis 3 sous-marins sur 4. On peut n'en mettre que 3 au maximum à l'eau. Preuve à la fois d'une prise en compte des menaces de Vladimir Poutine. Il ne faudrait pas que les sous-marins puissent être atteints ou détruits dans le cas d'une frappe nucléaire. Donc on les met dans une certaine mesure en protection, puisqu'ils sont dans les profondeurs de l'océan Atlantique et ils sont quasiment intouchables. Et en même temps, c'est aussi pour envoyer un message clair au président Poutine, pour lui dire « Nous avons aussi des arsenaux nucléaires et nous sommes aussi en possibilité de frapper le territoire russe. D'ailleurs, nous avons mis nos 3 sous-marins à l'eau, qui est aussi un signe, finalement, de non pas de représailles, mais qui est un signe de capacité d'action. Donc le conflit est sous l'ombre de l'emploi des armes nucléaires. Et ce qui est important de comprendre, c'est que les risques d'emploi volontaires ou accidentels sont aussi quelque chose qui peuvent déboucher sur une véritable crise humanitaire, hein, sur des conséquences environnementales extrêmement importantes. Donc on s'aperçoit que la multiplication de l'emploi de ces menaces nucléaires ont aussi tendance à baisser le spectre du tabou. C'est-à-dire que plus on commence à parler des armes nucléaires comme des systèmes d'armes finalement équivalents à d'autres...
On s'écarte de la doctrine du non-emploi, en fait, de plus en plus. Commence à s'habituer...
En fait, il n'y a pas de doctrine de non-emploi. Tous les États, peut-être à part la Chine, véritablement, et l'Inde, n'ont pas une doctrine d'emploi en premier. Nous, la France, nous avons une doctrine d'emploi en premier. Hein, c'est-à-dire que avant même qu'un État n'utilise son arsenal nucléaire, dans la stratégie française, c'est ce qui s'appelle l'ultime avertissement, on a une capacité de frapper en premier. Donc c'est une arme qui a une capacité de puissance de 20 fois l'arme qui a détruit Hiroshima, par exemple. Donc on a cette capacité d'emploi en premier. Donc on est prêt à utiliser en premier notre arsenal nucléaire. Hein, on est à chaque fois dans ce cadre-là. Et ce qu'il faut comprendre, c'est les conséquences. Hein, les conséquences seraient évidemment massives et viendraient chambouler la société humaine telle qu'on la connaît aujourd'hui. C'est-à-dire que ce serait la première fois dans un cadre de guerre depuis 1945 que des armes nucléaires seraient utilisées. Ce serait des millions de réfugiés ukrainiens et de l'ensemble de l'Europe centrale qui afflueraient en territoire français, espagnol, portugais, italien, si bien sûr cette frappe n'est localisée que sur l'Ukraine. C'est aussi un chamboulement total de l'économie. Et potentiellement, si on rentre dans le cadre d'un scénario d'une guerre nucléaire massive, eh bien là, c'est un changement de société humaine, puisque l'on sait que ça déboucherait sur des catastrophes climatiques qui s'appellent l'hiver nucléaire et qui empêcheraient véritablement la société humaine de pouvoir poursuivre son destin tel qu'elle le vit aujourd'hui.
Nous allons écouter maintenant Jean Marcia, qui est président de la Société européenne de défense, mais aussi docteur en sciences politiques et qui est connu pour son engagement en faveur de la construction d'une Europe de la défense.
Jean Marcia, merci de répondre à nos questions. Bonjour. Que pensez-vous d'ICAN France, si vous les connaissez, et du désarmement nucléaire comme une nécessité absolue pour sécuriser le monde, et pas seulement à long terme, mais à court terme, dans le contexte géopolitique mondial actuel? Et pensez-vous que cela soit réalisable? Ou comment évaluez-vous l'impact social et économique de cette dénucléarisation sur la sécurité mondiale?
Alors, je me suis informé sur la campagne internationale pour abolir les armes c'est que le 7 mars 2025, à New York, les États partisans du rejet des armes nucléaires ont affirmé que la dissuasion nucléaire menace... Là-dessus, je suis d'accord, j'ai l'expérience du nucléaire militaire au sein de l'armée belge. Mmh. Et ces États ont condamné toute rhétorique ou action qui porte atteinte au tabou mondial des armes nucléaires. Alors, je suis par conséquent condamné, et je m'en moque, car je considère que c'est la dissuasion qui m'a permis de vivre en paix en Europe, plus exactement l'absence de guerre chaude en Europe, tandis que l'Asie, l'Afrique, l'Amérique latine ont été au cours de ma vie régulièrement ensanglantées. Les personnes qui veulent la fin de la dissuasion sont à mes yeux de dangereux fauteurs de guerre. Des guerres, il y en a une quarantaine en cours dans le monde aujourd'hui. Celles qui ont lieu en Ukraine, dans l'est du Congo, au Soudan, au Yémen, ne sont que les plus médiatisées. Je me rappelle aussi qu'en 1991, pour parler français, l'Ukraine avait plus d'armes nucléaires que la Grande-Bretagne, la France et la Chine. L'Ukraine y a renoncé en échange d'un mémorandum signé à Bucarest en 1994,
oui,
par lequel la Russie, les États-Unis d'Amérique et le Royaume-Uni ont garanti l'intégrité territoriale de l'Ukraine en échange de sa ratification du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. En 1996, ces dernières armes nucléaires sont allées en Russie pour y être démantelées. Et en 2014, et plus encore depuis le 24 février 2022, Poutine a violé le mémorandum de Bucarest et le traité russo-ukrainien de 1997, sans parler de la charte des Nations Unies.
Très bien. Comment, pour revenir à la doctrine nucléaire, pourrait-on articuler la doctrine nucléaire avec la défense européenne ? Quelle forme pourrait prendre cette défense européenne nucléaire du point de vue militaire en termes de coordination ou de commandement ? Croyez-vous à un parapluie nucléaire européen possible ?
Oui, je crois à un parapluie européen possible et souhaitable. Pour le concevoir, je m'inspire pour l'Europe de la pensée de Charles de Gaulle, qui a conçu pour la France la dissuasion du faible au fort, afin de sanctuariser la France et de restaurer ainsi sa souveraineté, sans toutefois renoncer à la solidarité avec les alliés. Il l'a montré lors de la crise de Cuba en 1962 notamment. Au sein de la Société européenne de défense, nous plaidons pour une défense européenne fédérale avec dissuasion nucléaire et l'interdiction sous peine de sanctions pénales de toute guerre d'agression. Comment faudrait-il concevoir une défense européenne? Ben, si on a un État fédéral avec un chef de l'État ou un chef de gouvernement qui soit le chef des armées, il faudra le doter d'une structure de commandement comme il en existe une à l'Élysée, quartier général Jupiter, je crois que vous appelez ce service, et que ce service puisse avoir le moyen d'activer les armes nucléaires, qu'elles soient portées par des avions, qu'elles soient éventuellement, ce que la France n'a plus, mais elle l'a eu, qu'elles soient portées par des missiles sol-sol, ou qu'elles soient portées par des sous-marins porteurs de missiles balistiques. Voilà, ça c'est l'expression très simple de ce qu'il faudrait faire. Il faudrait donc une sorte de commandement des forces stratégiques européennes, mais qui n'est concevable que s'il y a un chef d'État ou de gouvernement, chef des armées, qui soit la personne apte à mettre en œuvre cette force de dissuasion.
Et cette personne ne peut pas être le président d'un des États membres?
Non, je comptais le dire dans un... Vous vous souvenez que le président Chirac et Macron ont plaidé pour ouvrir le parapluie nucléaire français afin de couvrir l'Europe. Mais Poutine estimait à l'époque de Chirac, et estime toujours aujourd'hui, que ce n'est pas crédible que la France, ni la Grande-Bretagne d'ailleurs, la France ne va pas risquer Lyon, puisque vous êtes à Lyon, pour protéger Riga. Donc il faut se souvenir que dissuader, ce n'est pas seulement déployer des moyens. C'est avant tout persuader l'adversaire que l'on est prêt à les utiliser. Et ça, ben, le président de la Commission européenne ou un quelconque chef d'État de l'Europe n'est pas l'issue. n'est pas suffisamment crédible, n'est pas suffisamment légitime que pour persuader tout adversaire que l'on est prêt à utiliser les moyens de dissuasion.
Pour sortir, alors sur cette question,
Vous voyez bien, à nouveau, on revient sur ce mythe que si l'Ukraine avait gardé son arsenal nucléaire, donc c'est véritablement quelque chose qui est ancré chez une partie des partisans de l'arme nucléaire. Et puis c'est toujours étonnant, ces gens qui disent que, en fait, vous voyez, il y a des guerres en Afrique, et donc chez nous, il n'y a pas la guerre parce qu'il y a des armes nucléaires. Donc on en tire quoi comme conclusion? Il faudrait que les États africains aient aussi des armes nucléaires, ou en fait que l'ensemble des États à travers la planète aient des armes nucléaires pour assurer une sécurité internationale. Donc c'est des arguments qui n'ont bien sûr aucune valeur et qui sont dangereux puisqu'ils sont proliférants, puisqu'on sait très bien, et c'est l'objectif, hein, s'il y a plus d'États qui possèdent des arsenaux nucléaires, évidemment l'instabilité mondiale sera beaucoup plus grande. D'autre part, dans son argument pour dire finalement j'ai vécu en paix grâce à la dissuasion pendant la période de la guerre froide, puisque l'Occident, à travers l'OTAN notamment, avait des armes nucléaires et à nouveau en Afrique ou ailleurs, il y avait des conflits. Alors effectivement, il n'y a pas eu de guerre au sens propre du terme pendant la guerre froide entre les grandes puissances. Hein, la France n'a pas fait la guerre à l'Union soviétique, ni les États-Unis à l'Union soviétique. Par contre, tous ces États ont alimenté de manière parallèle des conflits où les deux blocs se sont bien affrontés. Hein, de l'Indochine à la guerre du Vietnam, aux multiples coups qu'il y a eu aussi en Amérique latine et dans les Caraïbes ou en Amérique centrale. Tous ces coups ont été fomentés pour obtenir finalement que les gouvernements de ces différents États tombent d'un côté du bloc de l'Est ou du bloc de l'Ouest. Donc ce sont bien des guerres qui ont été alimentées par les deux grands États, évidemment sans armes nucléaires, mais à coup de centaines de millions de personnes qui ont péri et aussi de zones qui ont été complètement détruites sur le plan environnemental. Donc on est devant ces différentes évidences. Les armes nucléaires, si elles étaient la solution à la sécurité internationale, dans les années 70, les États ne se seraient pas réunis et ne travailleraient pas au désarmement nucléaire. Donc il est évident que ces armes de destruction massive, puisque c'est bien comme ça qu'il faut les appeler, sont extrêmement dangereuses. C'est en quelque sorte, vous savez finalement que conduire avec un téléphone portable en réalisant des messages, c'est extrêmement dangereux. Mais vous continuez à écrire des messages sur votre téléphone portable tout en conduisant. Et puis de temps en temps, vous vous faites des coups de frayeur. Alors avec les arsenaux nucléaires, on a eu de nombreuses frayeurs, que ce soit Cuba par exemple, que ce soit la crise des euromissiles. Ces derniers mois aussi, il y a quand même eu un certain nombre de frayeurs. Toute la question, encore une fois, c'est pendant combien de temps, en fait, on en reste uniquement à de la frayeur, puisque une fois qu'il y aura eu un accident ou une guerre nucléaire, il n'y aura plus personne pour pouvoir revenir à un état de société normal.
Alors, nous, on en discutait avec Daniel, qui peut peut-être intervenir aussi là-dessus. Notre question, vous l'avez abordée en début d'émission, vous avez parlé d'un instrument juridique contraignant. En fait, la question, c'est la faisabilité, c'est-à-dire la stratégie, est-ce qu'elle passe uniquement par le dialogue, la diplomatie, comme vous dites, mettre la pression, mais quel levier on peut avoir et comment on peut contrôler les armements, comment on peut faire en sorte de vérifier que tout le monde va respecter un traité de désarmement?
Alors oui, la solution, c'est évidemment le dialogue et la diplomatie et pas du tout la guerre qui crée une pression. Il est évident, et tout le monde en est bien conscient, que c'est un chemin qui prend du temps, qui est long, qui est complexe, et qui est encore un peu plus complexe et long dans cette période aujourd'hui qu'il y a peut-être une dizaine d'années, quoique on pourrait s'interroger. Mais donc il y a une complexité à parvenir au désarmement nucléaire. La diplomatie, c'est discuter avec des hommes ou des groupes d'États avec lesquels vous ne partagez pas des idées, et dans lequel vous allez tendre à faire en sorte que ceux-ci, petit à petit, acceptent ces idées ou commencent à vous rejoindre. Et c'est exactement ce qui s'est passé sur le traité sur l'interdiction des armes nucléaires. Au départ, dans les premières discussions sur la création potentiellement de ce traité en 2015, il n'y avait pas beaucoup d'États qui étaient très favorables. Et puis petit à petit, il y a de nombreux États qui ont commencé à le rejoindre. Et on a eu une base globale assez importante, hein, une cinquantaine d'États. Et puis aujourd'hui, on est à une centaine d'États. Donc c'est bien la compréhension, le dialogue, la diplomatie. Et on a même des États qui participent comme États observateurs, qui pourtant n'adhère pas à ce tian, mais veut le comprendre et veut le travailler avec le reste de la communauté internationale, puisque ce sont des États qui soutiennent la politique de dissuasion, comme par exemple l'Allemagne, comme par exemple la Norvège, ou la Suède, qui ont participé, ou je pense aussi à l'Australie, qui ont participé à différentes réunions qui se sont déroulées sur ces trois dernières années. Donc c'est comme ça qu'on arrive à accéder, à agréger finalement une masse de plus en plus importante d'États qui créent une pression internationale. Mais il ne faut pas oublier aussi le pouvoir finalement de chacun de vos auditeurs. Hein. Chacun de vos auditeurs a aussi une capacité de pression. En France, et le job que je réalise avec les organisations, c'est de créer une communication autour de ce traité et de montrer la réalité des armes nucléaires. Et chaque personne peut, par exemple, engager son maire à signer un appel des villes pour soutenir ce traité sur l'interdiction des armes nucléaires. Aujourd'hui, on a 87 villes françaises qui ont signé cet appel, donc qui créent une pression sous le gouvernement français. Et le maire, c'est quelqu'un, finalement, que tout le monde peut aller trouver assez facilement. Hein. Tout le monde sait où est la mairie
de proximité.
Voilà, de sa ville ou de son village. Vous pouvez parfois même le rencontrer de manière assez simple et lui demander de s'engager à signer cet appel. Donc, l'ensemble des documents sont disponibles sur le site internet de ICANN France, hein, ICANNfrance.org. Parmi les villes qui ont signé, on a de très grandes villes, hein. On a Paris, notre capitale, ce qui est quand même quelque chose d'important et à souligner. On a aussi la ville de Lyon et la métropole lyonnaise, par exemple. On a Bordeaux, on a Saint-Étienne, on a Montpellier, on a Tours, on a voilà, différentes villes. Et puis on a aussi des petites villes ou des villages, même un petit village dans les Pyrénées où il y a 39 habitants, par exemple, qui ont décidé de s'engager aussi. On a aussi des couleurs politiques qui sont très variées. Hein, puisqu'on a à la fois des villes qui sont plutôt politiquement à droite, comme Saint-Étienne ou la région Bourgogne-Franche-Comté, ou encore des villes qui sont plutôt du côté des écologistes, comme Lyon, Bordeaux, ou encore Poitiers, et puis des villes socialistes, comme par exemple Montpellier, ou communistes, comme notamment le département de Seine-Saint-Denis, ou Malakoff, ou Grigny, pour ne citer que ces différentes villes. Sachant que la majeure partie, finalement, des villes de taille moyenne française sont apolitiques, hein, elles n'ont pas une vraie couleur politique, elles sont là pour une destinée commune, sur une action au niveau de leurs citoyens et des citoyennes. Donc ça, c'est un vrai geste qui crée une pression et qui permet d'engager un débat, qui permet d'engager un combat politique avec les autorités gouvernementales pour faire avancer cette notion du désarmement nucléaire, puisqu'il faut bien que les auditeurs comprennent, s'engager dans le désarmement nucléaire à travers ce traité, ça ne veut pas dire renoncer dès demain matin aux arsenaux nucléaires. Ça veut déjà dire de parler du désarmement, puisque je peux vous garantir que dans les sphères actuelles, cette notion de désarmement est totalement méconnue. Il y a un refus de vouloir imaginer ce monde sans armes nucléaires, c'est-à-dire de travailler ouvertement et de bonne foi à ceci. Et une fois qu'on commence véritablement à s'ouvrir à ce sujet, à le travailler, à voir les problématiques qui vont être mises en œuvre pour pouvoir parvenir à ce désarmement, eh bien là, vous commencez à rentrer dans une nouvelle phase parce que vous imaginez comment vous allez éliminer votre arsenal nucléaire. Mais lorsqu'on sera dans cette phase, on sera déjà, je dirais, d'une certaine façon, dans la fin du désarmement nucléaire. Donc le premier objectif, c'est déjà d'expliquer, de convaincre, de discuter de ces différents sujets.
Imaginons qu'on parvienne ici quelques années au désarmement nucléaire total. Ce ne serait pas le retour des guerres conventionnelles dans le monde entier?
Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas du tout de guerre conventionnelle.
Il y en a plein, oui. Non, voilà. On est bien d'accord.
Donc on a énormément de guerres conventionnelles.
Mais est-ce que ça ne pourrait pas les démultiplier?
Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que...
On recommence à faire la guerre aux voisins, quoi.
Oui, c'est ce qui est le cas déjà aujourd'hui. Hein. Déjà aujourd'hui, on fait la guerre aux voisins qu'il y ait des armes nucléaires. Donc, les armes nucléaires n'empêchent pas la guerre. Au contraire, elles alimentent la guerre, voire même, elles permettent cette fameuse guerre conventionnelle. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Hein. La Russie fait une guerre conventionnelle à l'ombre de son arsenal nucléaire et donc à massacrer des populations comme à Boutcha, par exemple, parce qu'elle a des armes nucléaires. Et ça, il faut quand même bien l'entendre et le comprendre. Plus d'armes nucléaires, ça ne signifiera pas qu'il n'y aura plus jamais de guerre. Par contre, ça signifiera une chose, c'est que si jamais il y a des guerres, ça ne signifiera pas la fin de l'histoire. Aujourd'hui, avec des armes nucléaires, on peut mettre un terme à
l'espèce
l'histoire,
humaine, à l'histoire vivant, de l'humanité. Au vivant.
Voilà.
Alors, on va écouter...
Jean Mènera.
Alors, nous recevons Jean-Marie Collin d'ICANN France,
Que pensez-vous des positions d'ICANN, de leur démarche? Pour vous, y a-t-il une nécessité absolue d'un désarmement nucléaire ou les traités actuels de non-prolifération des armes nucléaires suffisent-ils, y compris dans un contexte de renversement géopolitique auquel nous assistons, de faiblesse de l'ONU et en règle générale des instances et des engagements conventionnels internationaux? Quelle est votre position?
Eh bien, ma position, elle est assez générale, en fait. C'est-à-dire que je pense que, évidemment, on a raison d'avoir peur de l'énergie nucléaire et surtout de ses mauvais usages, mais un désarmement unilatéral n'aurait pas de sens, et toute la difficulté de la démarche se retrouve dans la nécessité d'avoir un désarmement contemporain de toutes les puissances nucléaires. On parle bien du nucléaire
militaire.
Le nucléaire civil, c'est aussi peut-être un souci, mais c'est un autre sujet.
Bon, très bien. Alors, est-ce que vous avez pu entendre un petit peu les réponses de Jean Marcia à notre interview? Qu'est-ce que vous en avez retenu, en quelques mots?
Je pense que lui et moi sommes d'accord sur l'analyse qu'il fait. Et dans le contexte actuel, je pense que la question est d'autant plus délicate que nous avons bien vu que Poutine a utilisé la menace nucléaire pour essayer de nous faire peur et qu'il n'y est pas parvenu. Et je pense que c'est ça aussi qui est intéressant. C'est que doit-on penser de l'usage éventuel de l'arme nucléaire par un belligérant, quel qu'il soit. La leçon qu'on peut tirer de ce qui s'est produit depuis maintenant plus de 3 ans, c'est que quand Poutine brandit sa menace, on se rend compte qu'elle n'est pas crédible. Elle n'est pas crédible, enfin, sauf si Poutine était complètement fou et décide de se suicider et de suicider avec lui une bonne partie de l'Europe.
Alors c'est là que je me permets de vous interrompre, parce que ça va dans le sens de ce que vous êtes en train de dire. En fait, vous pensez que le sens de responsabilité des grandes puissances dotées, de quelque nature que soit leur régime politique, en fait, hein, peut encore garantir le respect de l'application de la doctrine très spécifique du non-emploi du nucléaire, ce qu'on appelle la dissuasion. Parce que c'est la dissuasion ou l'apocalypse pour tout le monde.
Oui, alors la question de la dissuasion, il faudrait l'aborder peut-être de manière plus large. Mais en tout cas, vous posez la question de du sens des responsabilités des responsables politiques. Je ne poserai pas la question de cette manière-là. C'est-à-dire que je ne sais pas si c'est un sens des responsabilités, parce que c'est vraiment la perception qu'ils ont et qu'on ne peut pas éviter. Personne ne peut éviter cette perception. Que utiliser en première intention l'arme nucléaire, c'est un geste suicidaire. Aucune puissance au monde ne peut imaginer aujourd'hui, nous ne sommes plus dans les circonstances d'Hiroshima et Nagasaki, qui était vraiment dans un contexte tout à fait particulier, et l'utilisation des bombes nucléaires à titre expérimental, à ce moment-là, était un véritable scandale. Parce que le Japon était prêt de capituler, donc c'est en plus totalement inutile dans l'intention qui avait été assignée à ces deux frappes, était totalement inutile. Mais on n'est plus dans cette situation-là aujourd'hui, parce qu'on a vu ce qui se passait, on a des puissances, des bombes d'une puissance largement supérieure à celles aux bombes utilisées à Hiroshima et Nagasaki, et je pense que tout le monde a compris. Tout le monde a bien compris qu'aujourd'hui, quelqu'un qui utiliserait en première intention l'arme nucléaire serait immédiatement rayé de la carte. Son pays serait rayé de la carte, et même plus largement. Donc, c'est un geste
qui les menaces nucléaires ne doivent pas nous faire peur, en tout cas.
C'est-à-dire que c'est paradoxal. Mais on en arrive à ce constat. On en arrive paradoxalement à ce constat que le nucléaire, rationnellement aujourd'hui, ne peut plus nous faire peur. Oui. Dans la mesure où un utilisateur potentiel n'est pas complètement dément. Parce que si un utilisateur de l'arme nucléaire aujourd'hui qui penserait pouvoir survivre à la frappe nucléaire, même en étant l'initiateur, serait complètement fou.
Que pensez-vous de l'Europe de la défense qui semble s'imposer aujourd'hui, très tardivement, à l'Union européenne et à l'Europe? En tout cas, on dit que c'est Trump, à contrario de sa volonté de rompre avec ses alliés et de sa politique d'affaiblissement de l'Europe et de l'Union européenne, affirmé, qui réveille l'Europe. Êtes-vous d'accord avec cette analyse?
Alors, oui, a priori, oui. C'est vrai que Trump réveille l'Europe, enfin, est en train de réveiller l'Europe. L'a-t-il complètement réveillé? Je n'en suis pas certain. Et en fait, une mauvaise analyse par la plupart de nos dirigeants fait que on n'a pas encore compris ce qu'il fallait faire pour créer une défense européenne par les Européens. Donc aujourd'hui, on parle beaucoup d'achat d'armes, d'achat de matériel militaire, mais on n'a pas pour autant mis sur pied une véritable défense européenne. On en est très loin.
Et c'est là que vous rejoignez Jean Marcia.
Tout à fait. Parce que ce n'est pas un problème de matériel. C'est avant tout un problème politique.
Et de commandement, qui dépend d'une Europe politique.
Tout à fait. Et nous ne parlons pas seulement de défense, en l'occurrence, mais aussi de dissuasion. La dissuasion n'a pas commencé avec l'arme nucléaire. C'était toutes les armées d'État. Je ne parle pas des bandes de pillards qui pouvaient ravager les pays il y a quelques siècles, mais toute défense d'État est d'abord une dissuasion, avant d'être une défense. Elle devient défense à partir du moment où la dissuasion a échoué et qu'on est obligé d'engager des opérations militaires.
Qu'on a été attaqué.
Oui, absolument. Donc aujourd'hui, on en est là et on ne voit pas véritablement de gestes efficaces en vue d'une défense européenne. Même ceux qui pensent établir une coopération entre la trentaine d'armées européennes pour mettre sur pied une défense européenne, ne réfléchissent pas à ce qu'ils disent. Parce que une défense, si elle veut être efficace, une dissuasion, si elle veut être efficace, doit faire comprendre à l'adversaire potentiel qu'il s'agit d'une affaire sérieuse et que la décision de riposter sera immédiate et que tout est déjà en place pour cela. Or, nous en sommes très, très loin.
Une réaction.
Voilà. Déjà, je vais le repréciser parce que j'ai pas eu l'occasion de le dire. À Cannes, la campagne à Cannes ne travaille que sur l'arme nucléaire et donc pas sur le nucléaire civil et se concentrons uniquement sur le nucléaire militaire. Après, ce qu'on vient d'entendre est assez étonnant à différents égards. Quand il dit par exemple, Poutine ne fait pas peur. Je suis désolé, mais évidemment qu'il a fait peur pendant plusieurs mois, notamment parce que, par exemple, c'est l'une des raisons qui ont fait que la France a mis 3 sous-marins à l'eau. C'est la raison principale qui fait, pendant près d'un an, on a eu un grand débat en France avec l'emploi d'un terme très significatif. On ne donne à l'Ukraine que des armes défensives.
Oui.
On a parlé d'armes défensives uniquement parce qu'on avait une certaine peur que la Russie prenne mal à différents égards que l'on livre à l'Ukraine des armes dites offensives. Donc, c'est bien cette peur qui a enclenché cet esprit de communication à parler d'armes défensives. Et petit à petit, on est passé de livrer finalement des camions, des casques ou des gilets pare-balles à de plus en plus de systèmes d'armes. Et aujourd'hui, effectivement, cette peur a été relativisée puisqu'on en est à livrer à la fois des avions de chasse, des missiles de portée assez importante qui permettent à l'Ukraine de frapper directement sur le territoire russe. Donc évidemment que l'attitude de Poutine a fait peur aux dirigeants politiques et à la population civile aussi. Il y a eu par ailleurs de très nombreux articles de presse sur, même si ça me paraît tout à fait en dehors de la réalité sur comment construire des bunkers, par exemple, c'est bien parce qu'il y avait une opinion publique qui avait finalement cette certaine peur. Dire que le nucléaire ne sera jamais employé, bon, bah, ça fait partie de la croyance. Hein. Certaines personnes croient en Dieu, et bien ces personnes croient dans le fait que les armes nucléaires ne seront jamais employées. Bon, bah, écoutez, moi, je n'ai pas de la croyance. Hein. Moi, j'ai un doute, j'ai une incertitude. Oui. Tant qu'il y aura des armes nucléaires, il y aura un risque, évidemment, que celles-ci soient employées de façon volontaire ou par accident, et c'est important. Et puis, enfin, là aussi, cette personne parle de désarmement unilatéral. Donc, il faut bien quand même comprendre que jusqu'à présent, autant les Français que les Britanniques ont toujours fait du désarmement unilatéral et ont toujours souhaité en faire parce que c'est ce qui leur a permis jusqu'à présent d'être libres dans la manière de réaliser ce désarmement unilatéral. Donc, c'est une volonté. Personne ne parle aujourd'hui, ne demande à la France de désarmer unilatéralement. On parle plus de désarmement progressif ou multilatéral, notamment à travers l'OTAN, mais aussi à travers le traité de non-prolifération nucléaire, hein, puisque c'est l'autre traité, l'autre grand traité finalement qui est là pour limiter, contrôler et engager un processus de désarmement nucléaire. Le TNP et l'OTAN sont deux traités qui travaillent ensemble et qui sont complémentaires, et qu'il est important de l'entendre. Et il faut bien entendre aussi que dans ce fameux désarmement, qu'il soit multilatéral, c'est vrai que si, comme cette personne, on attend que toutes les puissances se mettent autour de la table pour désarmer, on risque d'attendre extrêmement longtemps. Si on attend que la Corée du Nord fasse le premier pas, on va aussi attendre extrêmement longtemps. Il faut quand même bien entendre une chose, c'est toujours les démocraties qui font les premiers pas.
Mais c'est ça,
si vous attendez que l'Arabie Saoudite ou les populations afghanes, talibanes mettent en œuvre et respectent le droit des femmes, vous allez attendre très longtemps. Et malheureusement, ces personnes vont en souffrir très longtemps. Donc c'est évidemment dans les démocraties que, en premier, on instaure, on pousse, on débat, on essaye de créer une pression pour que le respect, si je reste sur cet exemple, du droit des femmes soit mis en place. Et c'est en faisant cette égalité, ce travail-là, qu'on arrive à instaurer une pression internationale. Donc ce sera évidemment à des États comme les nôtres, les démocraties, d'agir en premier, mais une nouvelle fois, agir en premier,
c'est se rendre vulnérable aussi.
Pardon ?
C'est à un moment donné se rendre vulnérable.
Alors juste, je termine.
Oui.
Agir en premier, ça veut dire parler du désarmement nucléaire. Ça veut dire engager, aller à l'ONU, discuter de ces actions-là, ce qui n'est absolument pas le cas en France. Après, si les personnes pensent qu'on est vulnérable lorsqu'il n'y aura plus d'armes nucléaires, j'aimerais savoir ce qu'elles pensent aujourd'hui avec le fait de savoir que la Russie ou comme la Chine pointent leurs missiles nucléaires sur des villes comme Lyon, Paris ou Toulouse, par exemple. Si ça, ce n'est pas senti en vulnérabilité, je ne sais pas ce que c'est.
Oui, mais c'était l'idée que on arrive dans un monde où les démocraties respectent le droit international, mais que d'autres, que les autocraties ou que des régimes totalitaires dotés, eux, ne le respectent pas et qu'on n'ait pas de prise sur eux.
Alors, les démocraties respectent le droit international.
Non, pas. Je sais que ça se discute.
Une émission complète là-dessus. Hein. Oui. Malheureusement, si
mais c'était... voyez ce que je voulais dire.
Oui, mais si c'était aussi simple que ça, je pense que les relations internationales ou la géopolitique mondiale seraient beaucoup mieux. C'est évidemment aux démocraties d'agir et de respecter le mieux possible ce fameux droit international, mais encore une fois, les pressions, elles existent, et la capacité d'action, elles existent. Se croire qu'on n'a pas de moyens de pression, finalement, sur des États comme la Russie, eh bien, c'est finalement c'est faire croire d'une certaine faiblesse. On a bien créé de la pression sur un certain nombre de sanctions qui n'ont pas été forcément appliquées correctement, où aujourd'hui, on n'applique pas l'ensemble des actions. Par exemple, on continue d'importer du gaz de la part de la Russie, on était avec des Belges en Belgique, qui est une place diamantifère importante. Des diamants continuent d'être achetés auprès de la Russie. Donc on continue de réaliser un certain nombre de choses avec la Russie, alors même qu'on devrait stopper toute action économique avec cet État pour créer une pression internationale. En même temps, si on a une parole qui est non pas un double langage comme on peut le faire par moment, où justement on ne respecte pas ce droit international, si on le respectait mieux, on aurait beaucoup plus d'États, notamment d'États en Afrique ou d'Amérique latine qui soutiendraient aussi la démarche de l'Union européenne ou d'une manière générale des États occidentaux. C'est comme ça qu'on arrive à avoir une capacité d'interaction sur des États comme la Russie ou comme la Chine. Si on est sur la Chine, qui a aussi un arsenal nucléaire conséquent, hein, qui l'augmente actuellement et qui menace aussi d'employer son arsenal nucléaire, ou en tout cas les États vers qui il le vit, c'est évidemment plus les États européens qu'un État d'Amérique centrale, par exemple, eh bien, avec la Chine, on fait aussi du commerce et on vend aussi des systèmes ou des infrastructures extrêmement importantes. Donc, si on estime que cet État est dangereux, finalement, pour notre sécurité internationale, on doit aussi s'interroger sur les moyens économiques qu'on lui confère.
La Ligue des droits de l'homme nationale suit les travaux d'ICANN France. Alors, pourquoi la Ligue des droits de l'homme s'intéresse-t-elle à cette ONG? Je crois que vous êtes référent.
Oui, c'est ICANN. Ça. Mais l'ICANN, c'est une campagne internationale, International Campaign to Abolish Nuclear Weapons. Elle regroupe des centaines d'ONG, dont en France la LDH. Donc nous avons répondu collectivement et obtenu le prix Nobel de la paix en 2017 par la rédaction du traité d'interdiction des armes nucléaires, le TIAN, qui complète le TNP, sur lequel nous nous battions déjà pour qu'il soit effectif. Ce traité de non-prolifération de 68 peut devenir mis en œuvre complète. C'était l'objet de la campagne précédente, la campagne Abolition 2000, et au titre de président de la section de camp de la LDH à l'époque, en août 2005, j'étais membre de la délégation française lors des commémorations du 60e anniversaire des bombardements d'Hiroshima et Nagasaki.
Est-ce qu'on pourrait...
J'ai participé à des conférences à l'ONU, à New York, à Genève, à Vienne, dont la première assemblée des États parties.
D'accord, on va y revenir. Quelle est la position de la Ligue des droits de l'homme sur les armes nucléaires à des fins militaires?
Des fins militaires qui n'épargnent pas les civils. Donc, de base, ce sont des crimes de guerre et contre l'humanité. C'est, ce qui est en cause, c'est le principe juridique de distinction des civils et des militaires. Et d'ailleurs, l'exemple type, c'est les bombardements aériens de Guernica qui font référence. Mais avec le passage à l'atomique, c'est l'existence de l'espèce humaine entière qui est menacée. Alors la Ligue des droits de l'homme, alors sur ces aspects d'armement, veut l'application du principe de proportionnalité, qu'on n'utilise pas des armements disproportionnés aux enjeux dits de défense. Mais de toute façon, la Ligue des droits de l'homme lutte depuis toujours pour l'abolition universelle de la peine de mort. Alors là, il s'agit de la peine de mort universelle. Donc, dissuasion, arme de non-emploi, clé de voûte de notre défense nationale, tout ça, c'est des euphémismes d'une nouvelle langue orwellienne, politico-militaire. Donc, ce qu'on défend, nous, c'est la force du droit, qui est consacrée par des textes internationaux, contre le droit de la force. Voilà. Et depuis l'affaire Dreyfus, et notre origine, nous faisons vaccin critique, justement, sur ces abus de langage et des pouvoirs ultranationalistes qui sont hyper développés maintenant.
Et votre position sur le traité d'abolition des armes nucléaires, les puissances nucléaires ne l'ayant pas ratifié, comment est-ce que vous envisagez, vous, maintenant, la suite?
Déjà, le grand acquis, c'est que grâce au TIAN, les armes sont interdites au titre du droit humanitaire, c'est-à-dire celui des conventions de Genève, qui est porté par la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge, autres ONG partenaires de la campagne. Ce qui veut dire que pour nous, c'est une mise en conformité à la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, qui affirme en son article 3 le droit à la vie libre et en sûreté pour tout être humain, en lien à la Charte des Nations Unies, qui oblige les États au respect du principe d'égalité des droits des peuples et au respect des traités ratifiés. Les puissances nucléaires n'ont pas ratifié, mais ils ne sont pas dispensés d'appliquer le droit international. Et sinon, il n'y a pas d'égalité des peuples. Il y a la menace conservée d'un monopole d'extermination nucléaire par quelques individus, fussent-ils des chefs d'État élus, ce qui pose des problèmes à ce que signifie la démocratie aujourd'hui. Alors la suite, après que le droit a été fixé, c'est comment on peut le mettre en effectivité par la démocratie réelle. C'est la question d'actualité existentielle et de notre génération et des générations futures. Veut-on satisfaire les droits économiques, sociaux et culturels pour tous et toutes, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme, financer la transition écologique nécessaire, ici y ajoute, ce sont les objectifs fixés par l'Organisation l'Organisation des Nations Unies. Alors, doit-on céder à un hubris techno-scientifique de dépenses militaires, d'armements interdits, vendus à tout va? Voilà, c'est question d'actualité. C'est ce qu'appelait le risque de suicide de l'humanité dès le lendemain de l'explosion d'Hiroshima dans Combat, un texte d'Albert Camus. Alors, le traité de non-prolifération, si on veut s'appuyer dessus, il a la possibilité de créer des zones exemptes d'armes nucléaires. Il en existe 5 dans le monde. C'est ce qui, par exemple, l'Afrique, c'est ce qui permettrait de négocier dans la zone Europe et aussi pourquoi pas au Moyen-Orient, hein, si on plutôt que de se lancer dans une course au surarmement qui rend les choses ingérables à terme. Donc là, on est très mal embarqué, il faut revenir au droit. Et un accord de paix juste et durable, ça peut être viable, ça ne peut pas être viable, en tout cas sous la menace des armes nucléaires.
Je pense que l'intervention de notre ami de la Ligue des droits de l'homme est assez proche de celle de Vaïkan. Je vois peu de divergences, à part bien sûr que le problème de l'entité Union européenne est un objet qui échappe un peu à la Ligue des droits de l'homme de par sa nature. La Ligue des droits de l'homme en France n'a pas vocation à dire quelle forme doit prendre l'Union européenne composée de nos 27 pays. Est-ce qu'elle doit s'élargir ou non? C'est pas vraiment le problème de la Ligue des droits de l'homme. Et c'est normal. Dans les élections européennes pour le renouvellement du Parlement européen, l'an passé, la Ligue des droits de l'homme n'a pas pris position sur la forme que doit prendre l'Union européenne, une forme fédérale, un peu moins fédérale, intergouvernementale. Elle défendait les droits fondamentaux dans tous les pays de l'Union, bien sûr, l'état de droit, le respect des minorités, l'égalité hommes-femmes, les grands principes qu'on trouve d'ailleurs dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Donc pour moi qui représente aujourd'hui uniquement l'Association européenne de l'éducation, je trouve cette réponse satisfaisante pour un ligueur, mais pour un Européen qui veut construire une entité géopolitique qui s'appelle l'Union européenne, c'est pas le chemin de la Ligue des droits de l'homme. C'est pas son souci. La forme que doit prendre l'Union européenne, c'est pas son problème. Et il évoque d'ailleurs très bien les instances continentales en Europe qui existent, qui regroupent tous les États européens et qui devraient être censées répondre à ce genre de demandes de paix sur le continent, de stabilité et de sécurité. Mais on constate bien l'impuissance de ces instances internationales, sans parler de l'impuissance de l'ONU avec le problème des droits de veto des grandes puissances issues de la Seconde Guerre mondiale. Donc je ne sais pas si Jean-Marie Collin a quelque chose à rajouter par rapport au discours purement de la Ligue des droits de l'homme.
Alors, purement au discours de la Ligue des droits de l'homme, pour nous, on est très heureux dans notre campagne de voir que la LDH soutient la campagne et est présente. Et ça nous paraît assez logique du fait de sa fonction à protéger et à parler du droit et du droit international humanitaire, hein, donc dans ceux des droits humains. Donc dans ce cadre-là, c'est le soutien de cette organisation prestigieuse est vraiment important, et ça montre aussi la diversité des acteurs de notre campagne, entre des acteurs qui travaillent sur les questions de droit, des acteurs qui sont plus un côté pacifiste, d'autres qui ont plus un aspect sur l'environnement, par exemple, ou encore sur l'économie avec ATTAC. Donc voilà, cette présence de l'LDH est importante, et elle va notamment, je sais, elle doit aussi notamment agir sur la question des victimes des essais nucléaires. Actuellement, il y a une commission d'enquête, et la LDH s'interroge aussi pour voir comment elle peut agir pour aider les populations qui ont été victimes, pour faire en sorte que leurs droits soient respectés.
Bon, je pense qu'on va conclure.
Moi qui n'y connais strictement rien, j'aurais eu deux questions. Premièrement, est-ce qu'on peut vraiment faire confiance aux États pour un désarmement ?
Oui.
Est-ce qu'on peut y croire ? Et alors, pas en l'État, parce que aujourd'hui il y a des facteurs un peu trop incertains, hein, pour pas les nommer, on voit tous de quoi je parle, mais dans un futur plus ou moins proche, est-ce que vraiment c'est réaliste de parler de désarmement ?
Alors, il y a deux questions dans votre question, hein, c'est est-ce qu'on doit faire confiance aux États, et est-ce que c'est réaliste de parler de désarmement ? Hein, donc, écoutez, aujourd'hui, la meilleure forme que l'on a pour pouvoir dialoguer avec des gouvernements, c'est bien la création d'un État. Donc évidemment, on va croire les États et travailler avec eux, créer une confiance, instaurer des actions de vérification pour s'assurer que le jour où le processus de désarmement se mettra en place, celui-ci sera bien respecté. On peut s'apercevoir que lorsque l'Afrique du Sud a engagé son processus de désarmement, les inspecteurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique ont suivi le processus de désarmement et ont garanti au bout d'un certain nombre d'années que effectivement l'Afrique du Sud avait bel et bien abandonné et désarmé l'ensemble de ces systèmes d'armes nucléaires. Donc il y a ça, et c'est l'intérêt. Il y a aussi des choses à inventer dans la vision d'un désarmement de demain, notamment le rôle des ONG, le rôle de la société civile au sens propre sur sa capacité d'interaction ou sa capacité de contrôler. Maintenant, est-ce que le désarmement dans un temps futur, on va dire, est réalisable ? Encore une fois, c'est pas la bonne question. La bonne question, c'est pendant combien de temps nous n'avons pas, et je crois que je l'aurais déjà dit au moins trois fois, nous n'avons pas d'explosion d'armes nucléaires. Ça, c'est la bonne question. Et celui qui pense que peut-être on a encore 80 ans devant nous, comme c'est les 80 ans qui nous séparent d'Hiroshima Nagasaki, eh bien, c'est une personne qui fait un pari. Il fait le pari qu'il n'y aura pas d'explosion nucléaire dans les prochaines 80 années. Et donc, moi, je n'ai pas envie de parier sur la sécurité de la population européenne et plus largement mondiale.
Et une deuxième question, merci pour cette réponse déjà. Alors, je sais que vous avez dit que vous n'aborderiez pas la question du civil, mais ma question porte quand même un tout petit peu sur les civils. Est-ce que c'est pas illusoire d'espérer un abandon du nucléaire militaire sans envisager aussi celui du nucléaire civil ? Au sens notamment où on pourrait dissimuler des activités militaires sous couvert de production d'énergie.
Alors, c'est important de comprendre que c'est pas parce que vous possédez des infrastructures nucléaires civiles que vous allez posséder ou avoir la facilité de concevoir un arsenal nucléaire. Donc, c'est quand même deux ingénieries qui sont différentes. Certes, ça peut aider, et d'ailleurs, on peut s'apercevoir que les États qui possèdent des armes nucléaires sont partis d'un programme nucléaire civil pour cacher un programme nucléaire militaire, mais à côté de ce programme nucléaire militaire, donc pour concevoir des matières fissiles qui vont constituer les armes nucléaires, ils ont aussi mis en œuvre un programme nucléaire, un programme militaire sur la constitution, par exemple, de missiles ou de sous-marins ou d'avions de chasse qui allaient porter ces systèmes d'armes. Donc ça, c'est important. Et là aussi, je vais revenir sur l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud a abandonné son arsenal nucléaire militaire et a conservé ses activités nucléaires civiles. Si on va dans un autre pays, le Brésil dispose de toutes les capacités, dispose de mines, de capacités d'extraction, de capacités d'enrichissement de l'uranium. Et pourtant, c'est un État qui a décidé de renoncer aux armes nucléaires maintenant depuis un certain nombre d'années à travers différents traités. Donc, on voit bien que, en fait, dans la réalité, ce qui enclenche un État à s'engager dans un programme nucléaire militaire, c'est la volonté politique. Et c'est uniquement cette volonté politique. On a un dirigeant pakistanais dans les années 70 qui avait indiqué que son peuple mangerait de l'herbe s'il était nécessaire pour concevoir un arsenal nucléaire. Et c'est malheureusement ce qu'ils ont fait pendant de nombreuses années. Ça veut bien dire qu'il y avait une volonté politique de tout mettre en œuvre, d'utiliser tous les moyens économiques possible et humain pour constituer cet arsenal nucléaire. Donc c'est cette volonté politique qui est l'enclenchement tant du désarmement nucléaire que d'un programme nucléaire militaire.
Merci.
Oui, j'avais une question à vous poser. Qu'est-ce qui vous a amené personnellement, Jean-Marie Collin, à ICANN?
Alors, à ICANN, moi, ça va faire 24 ans, 25 ans bientôt que je travaille sur les questions de désarmement. J'ai toujours travaillé pour des...
En tant que
consultant.
Vous avez une formation...
J'ai une formation étudiante en sciences politiques et en relations internationales. À la suite de mes études, je souhaitais travailler plutôt pour des ONG et plutôt sur ces problématiques-là. Et bon, nous sommes à Lyon, hein, ici à Radio Brume, et sur la colline de Saint-Just se situe un des acteurs clés aussi de la campagne ICANN France, qui s'appelle l'Observatoire des armements. Et l'Observatoire m'a permis de commencer à travailler avec eux, avec notamment une personne qui nous a quittés, qui s'appelait Bruno Barillot, qui était un grand expert sur les problématiques du nucléaire militaire, notamment sur les conséquences des explosions d'armes nucléaires en Algérie et en Polynésie, par exemple. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à travailler. Et travaillant sur ces questions-là, j'ai suivi dès le départ la création au niveau international de la campagne et été directement intégré rapidement à travailler avec des personnes qui sont... Donc ICANN International est basé à Genève, donc avec des personnes basées sur Genève. Et après, on a créé ICANN France officiellement en 2013, entre 2009 et 2013. Le mouvement de la paix, notamment, avait décidé de relayer, dans un esprit aussi large avec d'autres organisations, la campagne, c'est-à-dire porter les idées de la campagne ICANN France. Et en 2013, il nous a tous paru important, toutes les organisations alors présentes, de créer véritablement une organisation ICANN France pour permettre de diffuser des messages et de porter pleinement les moyens de la campagne à travers la création de tracts, de brochures, engager des actions extrêmement militantes, des manifestations ou des actions de plaidoyer. Voilà.
Eh bien, merci beaucoup. Merci Jean-Marie Collin.
Merci beaucoup pour cette invitation.
À une prochaine fois. Quel est l'objectif d'ICANN dans les jours et dans les semaines qui viennent?
On essaie de démonter les mythes justement autour de ce fameux partage ou parapluie de la dissuasion nucléaire au niveau européen. Donc donc on travaille là-dessus actuellement. On relaie bien évidemment les informations liées au traité sur l'interdiction des armes nucléaires. On essaie d'engager aussi plus de villes à agir et donc à signer l'appel des villes. Et puis, nous sommes dans l'année des 80 ans d'Hiroshima et Nagasaki, une commémoration importante. Il faut souligner qu'on a démontré ces derniers mois que dans les près de 160 000 morts, au moins 38 000 enfants ont péri directement dans les premières minutes de l'explosion de ces deux armes. Et c'est important de s'imaginer que ces armes nucléaires touchent bien aussi des populations civiles et donc des enfants. Et donc on encourage, on a créé, là aussi, et vous pouvez trouver ça sur le site internet d'ICANN France, on a créé des boîtes à outils pour pouvoir mettre en œuvre des programmes d'action, et c'est extrêmement simple à mettre en œuvre. Donc une boîte à outils qui vous permet de créer une conférence, un ciné-débat par exemple, ou de mettre en œuvre des expositions. Vous remplissez ce petit questionnaire et derrière on reprendra contact avec vous pour créer ces futures conférences et ciné-débats. Donc j'engage vos auditeurs à se rendre sur le site de ICANN France, à écrire sur ce site, ça s'appelle la section Plus jamais Hiroshima Nagasaki, et véritablement on vous apporte des moyens pour agir par vous-même pour arriver à une plus grande sécurité.
Merci beaucoup, merci Daniel Hulas. Vous aviez une question encore?
Non.
Alors merci Aurore Brouet pour vos deux questions, merci Gilles Dessina, merci à tous, au revoir.